Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vais continuer ce qu'on a commencé comme parcours sur le service dans l'église locale. Alors, je pense que c'est important qu'on continue malgré tout, qu'on s'arrête sur ces différents éléments qui nous sont donnés dans la Bible. Est-ce que nous avons envie d'être dans une église morose, une église où on ne voit pas beaucoup de fruits, une église où rien ne fonctionne bien, une église où on est frustré quand on sert, une église où on n'a pas l'impression d'avancer? Est-ce qu'on a envie d'être dans une église où on est là et on vivote au mieux qu'on peut et on se dit, ben voilà, je vais rester là et on verra bien comment ça ira? Je pense que quand on est croyant, quand on est enfant de Dieu, quand on a été sauvé, on n'a pas envie de vivre dans une église qui fait du surplace, on n'a pas envie de vivre dans une église qui est désorganisée, on n'a pas envie d'être dans une église où on ne sent pas de nouvel élan, où on ne sent pas une nouvelle vision, où on ne sent pas un avancement. Et donc cet enseignement qui porte sur des principes bibliques, des principes qui nous sont donnés dans la Bible pour que nous puissions avoir une vie d'église foisonnante de vie, une église vivante, une église pleine de vie dans tous les sens du terme, mais une église aussi qui porte du fruit, une église où il se passe des choses, une église où le Saint-Esprit produit des choses. Produit des conversions, produit des progressions dans la foi, produit de la joie, produit de la manifestation de dons spirituels, une église où on se sent avancé, où on a l'impression qu'on peut prendre sa place dans l'église, qu'on peut faire quelque chose, où on est encouragé par les autres, on encourage les autres. Un chrétien normal, c'est ce qu'il souhaite. Alors, nous arrêtons donc sur quelques principes que la Bible nous donne, que les Écritures nous donnent pour être capables ou pour que nous puissions mener cette vie d'Église. Alors, cet enseignement, il est spécifique, il est sur mesure pour notre Église, si vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, c'est un encouragement, c'est pas, le but n'est pas qu'on soit fâché ou qu'on... Le but, c'est de nous encourager à aller de l'avant, mais à aller de l'avant aussi selon des principes qui nous sont donnés dans la Bible et que nous puissions tous nous saisir de ces principes et que nous puissions aussi nous réjouir de voir notre Église avancer. Vous savez que dans la Bible, notamment par exemple dans Néhémie, si vous lisez Néhémie par exemple, on va voir que la construction du temple, ça tenait au cœur des gens. Ça tenait, les gens, ils n'étaient pas, ben oui, reconstruisez le temple et nous on va s'occuper de nos affaires. Les gens, ça leur tenait à cœur. Et donc il y a un texte, où il y a un chapitre entier de Néhémie où on explique comment les gens ont apporté tout un ensemble de choses pour que le temple puisse se bâtir. Pour que le temps puisse avancer. Donc un chrétien doit avoir ça à cœur, hein, de se dire, mon église, ben, c'est là que Dieu me met, et donc je veux aussi que ça avance. Vous voyez un peu l'idée. Voilà. Et donc c'est un encouragement pour que nous puissions progresser, et vous savez que quand notre église avance, nous nous sentons avancer dans notre foi aussi. Quand notre église avance, nous sommes heureux parce que nous voyons la main de Dieu qui se manifeste dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu, dans les dons spirituels, dans la jeunesse, dans la louange, et nous sommes contents. D'accord ? Quand notre Église avance, eh bien quelque part, nous sentons aussi que nous faisons avancer le royaume de Dieu. Puisque le but n'est pas d'avoir une Église qui soit c'est que le royaume de Dieu avance. Voyez ? Et donc, on a tous intérêt finalement à avoir à cœur l'avancement de notre Église et aussi à voir un peu ce que la Bible nous dit à ce sujet. Hein, donc, l'Église a un fonctionnement encadré par l'Écriture. Ce que beaucoup de gens ne n'intègrent pas. Et c'est ce qui permet de comprendre plein de choses dans l'Église. L'Église, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une association. Oui, ça peut être sous forme de SBL, mais ce n'est pas une association, ce n'est pas un club de scouts. C'est une institution qui est prévue dans la Bible et donc il y a tout un ensemble de choses qui nous sont racontées dans la Bible. Donc je vais rapidement résumer. Et donc en fait, l'idée, c'est que nous sommes en décembre 2021, et donc je vais, quoi qu'il arrive, terminer ça en 2021, et que nous puissions prendre le temps, individuellement, comme responsable ou à réfléchir pour que 2022 soit aussi, nous puissions entrer dans 2022 avec tout ça. Hein, et quel que soit ce que sera 2022, parce que l'Église ne se laisse pas arrêter par le Covid. Donc l'Église doit avancer malgré le Covid, même si on est reconfiné et reconfiné encore une fois et qu'on nous reconfine et qu'on se déconfine, ben, l'Église doit jouer son rôle. Pourquoi ? Parce que l'Église a une grande mission. L'Église a une grande mission. Nous avons vu que nous devons être tous impliqués dans l'Église parce que nous sommes des pierres vivantes. L'Église doit être un lieu où le Saint-Esprit agit. Et l'Église doit marcher selon la volonté de Dieu. Donc l'Église doit, comme Benoît l'a dit dans sa prière, dépendre du Saint-Esprit pour avancer, pour savoir que faire, pour... Voilà. Et donc une Église aussi doit être un lieu où le Saint-Esprit produit beaucoup de fruits dans les croyants et au travers des croyants. Donc le Saint-Esprit qui est en nous doit produire du fruit en nous, dans notre comportement, dans notre façon de vivre, dans notre vie de famille, dans notre quotidien, mais aussi au travers de nous. Quelqu'un disait très justement, si vous pensez à Abraham, quelle est la plus grande chose que Dieu a dit à Abraham ? On pourrait croire qu'il lui a dit, ah ben oui, tu auras un fils. Quelle est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à Abraham ? Eh bien, la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. En d'autres termes, quand Dieu veut nous bénir beaucoup, 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 ce qu'il fait, ce n'est pas nous donner beaucoup de choses. Mais quand Dieu bénit quelqu'un, il fait de lui quelqu'un qui bénit les autres. C'est ça être béni. Donc c'est-à-dire que nous apportons aux autres. C'est ça. Dieu n'est, dans le royaume de Dieu, Dieu n'a jamais pour but de remplir nos greniers. Ça ne l'intéresse pas. Donc remplir nos greniers pour qu'on soit content de dire « Ah ben c'est rempli, voilà. » Si c'est rempli, c'est pour que d'autres en bénéficient. Et donc, nous sommes appelés à ce que le Saint-Esprit produise des fruits en nous, mais aussi au travers de nous, dans l'Église, dans notre famille, voilà. Et donc l'Église est censée être le lieu de la diffusion de la connaissance de Dieu et de Christ. C'est à partir de l'Église que le monde est censé connaître qui est Dieu. Quelle mission quand même, hein ? À l'école, on va de moins en moins apprendre aux gens qui est Dieu. Donc là, on peut oublier. Il y a quelques années, on avait peur, on disait, mais là, un beau matin, on va nous dire les cours de religion et tous ces trucs-là à la poubelle. Hein. Donc si nous nous attendons à ce que le monde explique qui est Dieu, explique qui est Jésus-Christ, explique comment on fait pour aller au ciel, nous sommes perdus. Et le monde n'a pas envie de faire ça de toute façon. Donc l'Église, elle a cette mission. Et pour qu'elle puisse remplir cette mission, il faut qu'elle puisse respecter un certain nombre de principes. L'Église a une grande mission, elle est la source, elle est le lieu source de l'annonce de l'Évangile. C'est un lieu où Dieu est glorifié et où sa gloire se manifeste. C'est un lieu où on doit, où on peut enseigner, former, équiper, accompagner les disciples de Jésus. L'Église, c'est un lieu de prière, c'est un lieu où les Écritures font autorité. Donc c'est une grande mission quand même. Et donc parfois, quand on compare la mission que Jésus donne à l'Église et notre façon de vivre l'Église, bah, on a vraiment l'impression qu'on est là comme des touristes. Ah oui, oui, oui. Alors qu'on a une responsabilité. Hein. Donc c'est très important qu'on puisse s'en rendre compte et qu'on ne perde pas de ça de vue. Donc voilà. Principe précédent, nous avons vu trois principes. Le principe de l'implication globale. Tous les croyants, tout le monde est impliqué dans la mission de l'Église. On a vu le principe de la spécialisation. Tout le monde est impliqué, mais pas tout le monde pour la même chose et chacun à sa place. Et on a vu le principe de la coordination. L'Église doit être un lieu coordonné. Alors cet enseignement, il est centré sur la question du service dans l'Église. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait dire d'autres. Hein. Mais là, on parle juste de l'organisation du service, donc la façon de servir dans l'Église locale. On parle que de ça, et voilà. Donc pas d'autre chose. Et donc maintenant, on va voir deux autres principes aujourd'hui, et voilà. Premier principe, le principe de la transmission et de la formation. L'Église doit assurer nous devons assurer la continuité et l'expansion du service dans l'Église locale. D'accord ? Nous devons assurer la transmission des compétences, nous devons assurer la transmission des savoir-faire, nous devons assurer la transmission et la formation des ministères dans une Église. Transmission et formation, l'Église doit être un lieu où se vive la transmission. les compétences et les ministères doivent se transmettre à d'autres. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui doivent tout faire, mais les personnes qui font quelque chose doivent avoir à cœur de transmettre ce qu'elles font à d'autres. C'est un lieu de transmission. Transmission de personne à personne, mais aussi de transmission de génération en génération. Et c'est aussi un lieu, l'Église, un lieu de formation, un lieu où on est appelé, où on peut être formé pour le service de Dieu. Le disciple est un apprenti. Comme disciple de Jésus, nous sommes des apprentis. C'est ça un disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Nous devons apprendre à vivre comme Christ. Premièrement, marcher comme il a marché, nous dit l'apôtre Jean. Nous sommes appelés à marcher comme il a marché. Nous sommes appelés à apprendre l'enseignement de Christ. Mais nous sommes aussi appelés à apprendre à servir comme Christ. À être des serviteurs comme il a été serviteur. Et à servir dans l'Église comme Christ a été serviteur. Nous devons apprendre à servir comme Jésus a servi. Ainsi donc, apprendre, ça fait partie de notre ADN comme disciples de Jésus. Nous sommes des gens qui apprennent. Nous apprenons de Jésus, nous apprenons à prier, nous apprenons à nous confier en Dieu, nous apprenons à renoncer au péché, nous apprenons à nous relever, nous apprenons à pardonner, nous apprenons... Nous sommes des gens qui font que ça, en fait. On est des apprentis éternels. Mais donc, nous devons apprendre plein de choses, mais parmi les choses que nous devons apprendre, nous devons aussi apprendre à servir. Apprendre comment est-ce que l'on sert. Les dons ne sont pas tout. Moi, j'en ai de plus en plus marre d'entendre le mot don. Surtout quand on parle des pasteurs et qu'on dit les dons. C'est quoi un don? Je ne sais pas ce que c'est un don, moi. Les dons ne sont pas tout. Nous ne pouvons pas, dans le service, nous contenter de nos dons. Ils sont trop insuffisants. Nous ne pouvons pas dire, ben, j'ai le don de ceci, et donc, ben voilà, avec mon don, je sais tout faire. Nous ne pouvons pas dire, j'ai le don de cela, et donc je peux me passer du travail, je peux me passer d'être formé, je peux me passer d'apprendre. Ce n'est pas du tout ça l'enseignement de la Bible. Le don, c'est ce que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. C'est ce que Dieu nous donne et que nous ne pouvons pas par nos propres efforts avoir. C'est un don de Dieu. Mais le don tout seul, il ne suffit pas. Pour servir adéquatement, pour servir correctement, on n'a pas besoin que d'avoir des dons. Nous en avons tous des dons. Mais pour servir, nous avons besoin d'autre chose que des dons aussi. Les dons ne sont pas tout pour le service dans l'Église. Les dons n'excluent pas la formation, l'apprentissage. D'accord? Si vous vous levez en disant « Ouais, moi, bon, Anthony, il est coussi coussa. Moi, j'ai le don de jouer de la guitare. » Et que vous commencez et vous vous mettez à la guitare et que vous... Mais ça va ressembler à rien. Pourquoi? Parce que la guitare, ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent, ça ne se fait pas comme ça. Donc le don, les dons ne sont pas tout. Et même les dons qui sont des dons un peu plus purement spirituels appellent un apprentissage. D'accord? Donc même si vous avez un don d'évangélisation, il y a quand même encore la place pour qu'on vous explique certaines choses en disant, mais voilà, faut faire attention à ça, faut faire attention à ça, faut faire... Nous sommes d'accord avec ça sur tout, vous savez. Tous ici, vous êtes d'accord avec ça, puisque dans le quotidien, c'est ce que vous voyez. Au travail, c'est toujours apprendre, aller en formation continue. T'as été à la formation? Parce que c'est obligatoire, la formation. Il y a la formation de premier secours, il y a la formation ça. Et tu dois aller à la formation. On a toujours des formations. Quand tous les métiers sont des métiers où on se forme, le monde est un monde de formation. Alors pourquoi l'Église serait le seul lieu où on ne doit jamais rien apprendre? Et on est censé savoir tout faire comme ça. Ça n'existe pas. Donc on a besoin de se former. Les dons n'excluent pas non plus le travail. C'est pas parce qu'on a des dons qu'on doit pas travailler. Et le travail dans la Bible, c'est l'effort, l'investissement, la sueur, la fatigue. Il y a des choses qui demandent du travail, même si on a un don, ça ne suffit pas. Donc l'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui parlait de ceux qui se consacrent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Astreignant. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est un ministère épuisant. C'est épuisant la prédication, c'est épuisant l'enseignement. Après quelques années, on en a jusque-là. Pourquoi ? Parce que les dons ne suffisent pas, il faut travailler. C'est vrai pour la prédication, c'est vrai pour l'enseignement, mais c'est vrai pour tout. Il faut travailler pour apprendre à jouer de la musique, il faut travailler pour projeter les chants, il faut travailler pour faire des nouveaux recueils, il faut travailler pour faire les comptes, il faut travailler pour envoyer des mails, il faut travailler. Donc les dons ne sont pas tout dans l'Église. Et donc nous devons apprendre, mais nous devons aussi travailler, nous devons nous investir. C'est triste, hein, ça nous arrangerait quand même que les dons, mais ce serait quand même un peu bizarre. Donc les dons ne suffisent pas. Mais aussi, la méthode, nous avons à apprendre aussi la méthode. D'accord ? Il y a plein de choses pour lesquelles on doit apprendre les procédures qui viennent du passé et qu'on nous transmet. On doit apprendre la méthode, il y a une façon de faire les choses. La méthode, on doit apprendre les traditions pertinentes. Et nous devons apprendre l'héritage de comment les choses ont été faites auparavant. En d'autres termes, dans le service, il y a aussi plein de choses qui sont de la méthode à apprendre, que personne ne nous a jamais dit, que nous ne trouverons pas dans la Bible, mais il faut l'apprendre quand même. D'accord ? Donc, l'exemple qu'on prend des centaines de milliers de fois, la Bible ne donne pas de liturgie. Il n'y a pas de liturgie dans la Bible. Donc nous ne savons pas comment un culte doit se dérouler. Si nous faisons comme ça, c'est parce qu'on a choisi de faire comme ça, mais il n'y a pas un écrit, un texte où on nous dit c'est d'abord ça, et puis la Sainte Cène, et puis ça, c'est des choix, voilà. Ça veut dire que c'est des choses qu'on doit... Il y a des aspects qui sont hérités des autres. On nous a dit, ben oui, c'est mieux de mettre... on a réfléchi, les gens d'avant ont réfléchi, en se disant, mais c'est quand même mieux de mettre la prédication à tel moment, parce que les gens, voilà, voilà. Et donc, de génération en génération, on se sert de cette... tradition là pour pouvoir avancer, mais donc ça veut dire qu'il y a aussi des méthodes à apprendre. Et voilà, il y a, dans la façon de présider un culte, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Donc il faut apprendre, dire voilà, mais en disant, en mettant d'abord ça et puis ça, ça va aller mieux que si tu le mets comme ça. C'est, il y a de la méthode. Vous êtes marrant. J'ai toujours l'impression d'être un extraterrestre, moi, ici. Bon. Et les dons demandent aussi l'amélioration continue. Il ne suffit pas de savoir faire quelque chose une fois pour toujours. On doit aussi apprendre et faire mieux et mieux. D'accord ? Apprendre à présider un culte. Ça s'apprend, vous savez. Hein. Il n'y a pas qu'à avoir un don, hein, ça s'apprend. Mais nous, dans l'Église, nous voudrions tout savoir tout faire comme ça. Mais ça s'apprend, la majorité des gens qui le font, ils ont appris. Ils ont appris comment ? On leur a dit, vas-y, préside un culte, et puis on leur a dit, c'était bien, mais t'aurais dû faire ça comme ça, attention à ça, attention à ça. Attention parce que t'as utilisé tel verset, mais c'est pas correct. Et on apprend. Apprendre à présider une réunion de prière, apprendre à prêcher, ça s'apprend. Apprendre à jouer un instrument, apprendre le travail diaconal, hein, apprendre... les méthodes et comment faire des tableaux, comment voilà, ça s'apprend. Apprendre des attitudes pour l'évangélisation. Hein, je vous donne un exemple. Dans l'évangélisation, par exemple, il y a tout un ensemble de choses qui sont... Tu pouvais avoir le don d'évangélisation, c'est quand même bon à savoir. Par exemple, il y a certaines façons de parler aux gens quand vous évangélisez qui sont problématiques. Hein ? Il y a certaines façons d'aller vers les gens. Par exemple, on explique parfois aux gens qui font du porte-à-porte, oui, mais qu'il y a des maisons dans lesquelles les gens ont des cours avant leur porte. Vous voyez, donc les maisons dans lesquelles, quand vous arrivez, vous n'avez pas la porte devant vous, mais il y a une cour et la porte est là et la sonnette est seulement après. Vous voyez un peu. Et donc, les gens qui ont évangélisé, qui ont fait du porte-à-porte pendant des générations, se sont rendus compte que les gens qui ont ce genre de trucs, ça les énerve quand on rentre dans leur maison pour sonner, parce qu'on rentre dans leur propriété privée. Et donc, voilà, on dit à ces gens-là, quand c'est dans ces cas-là, c'est mieux de le mettre dans la boîte aux lettres. Ou alors, si vous allez sonner chez quelqu'un, sonnez une fois. Ne sonnez pas deux, trois fois, parce qu'après, les gens, ça les énerve. C'est des bêtes trucs. Mais c'est des choses qu'on transmet, quoi, qu'on explique. Même si on a un don, c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre comment on fait, voyez. Et donc, ça, c'est important. Apprendre à donner une leçon aux enfants, ça se fait pas si facilement. Hein. Il y a des formations. Moi, j'ai fait aussi la formation Écodim. C'était fatigant. C'était bien, mais c'était fatigant. C'était parce qu'on a été, il fallait souligner, il fallait. Ouh là là. Bon, soit. Mais donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Bon, vous avez compris. Hein. Jésus, pendant sa vie sur terre, a passé beaucoup de temps à former ses disciples pour leur apprendre comment on fait. Leur apprendre. Parce que nous devons apprendre. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a voulu former ses disciples et il a voulu les former par l'exemple. Il a agi pour que ses disciples voient comment ils faisaient et reproduisent. Et donc ça veut dire que l'apprentissage, ça fait partie de notre vie de disciples de Jésus-Christ. Le service dans l'Église nécessite d'être formé. Dans 2 Timothée, au-dessus, il est dit, pour toi, c'est Paul qui parle à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Comment est-ce que Timothée a appris ? Il a appris en voyant tout ça de l'apôtre Paul. Il a vu l'apôtre Paul faire, il a vu l'apôtre Paul servir, et il a appris. On sait que Timothée avait des dons. C'est écrit, hein, que ranime le don que tu as reçu. Donc Timothée avait des dons. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est passé d'apprendre, puisque l'apôtre dit, souviens-toi de ce que je t'ai dit, ce que je t'ai expliqué. Donc il a dû apprendre des choses, malgré qu'il avait des dons. Voyez ? Donc ça, c'est important. La formation concerne les attitudes et le caractère, d'abord. Dans le service de Dieu, quand nous servons Dieu, il y a tout un ensemble d'attitudes, de caractères que nous devons avoir. Et nous devons, voyez le verset, avant, mon enseignement, il faut apprendre l'enseignement, mais il faut apprendre aussi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ce sont des attitudes, tout ça. Nous devons donc aussi apprendre les attitudes qu'on doit avoir quand on sert. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas avoir quand on sert. Et donc nous devons apprendre, ou des attitudes qu'il faut absolument avoir. Et ça s'apprend aussi. Dans plein de choses, hein, y a plein de domaines comme ça où des choses pour lesquelles ben voilà vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est des attitudes qui posent problème. Mais on doit apprendre à avoir les bonnes attitudes. C'est pas facile, hein. Enfin, pour vous oui, pour moi non. Donc avoir les bonnes attitudes, c'est pas facile. D'être humble, d'être doux, c'est compliqué, hein. Vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous humbles, vous êtes tous doux, vous êtes tous gentils. Mais voilà, il y a des moments. Mais donc ça s'apprend aussi tout ça. Être patient. Il en faut de la patience, hein, ici. Oh. Bon, tout ça s'apprend. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit fait ça en nous, mais ça n'empêche qu'il y a de la place pour apprendre. Nous devons donc apprendre aussi le message à transmettre, la doctrine. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'école biblique des années pour apprendre ce que dit la Bible. Mais chez les protestants, ça c'est pas très important. Malheureusement. La façon de servir. Nous avons à apprendre la façon de servir. À apprendre comment est-ce qu'on exerce ses dons, comment on exerce son ministère. Et nous avons aussi à apprendre les principes et les méthodes qui sont d'application dans un domaine. Tout ça, nous devons apprendre. Alors, question essentielle sur laquelle nous allons nous arrêter. Acceptons-nous d'être formés pour apprendre à servir et pour nous améliorer dans notre service ? Est-ce que nous acceptons tous, nous, tous, est-ce que nous acceptons d'être formés ? Ou est-ce que nous pensons que nous savons ? Il y a des gens qui ne servent pas ou qui ne veulent pas servir ou qui ne pourront pas servir parce qu'ils ne seront pas prêts à être formés. Ils ne seront pas prêts à ce qu'on leur dise. Écoute, c'est bien, mais... Ou alors, c'est très bien, il n'y a rien à redire. Ou alors, oui, mais non, ça ne va pas. Hein, aujourd'hui, c'est des choses qui passent moins. Mais nous en avons besoin pour grandir. Nous avons besoin pour grandir. Est-ce que nous acceptons d'être formés pour apprendre à servir et pour nous améliorer aussi ? Est-ce que nous acceptons aussi de nous investir pour former d'autres personnes ? Puisqu'il faut former et que tout le monde doit être formé, est-ce que nous investissons aussi pour que ce que nous savons faire, d'autres aussi sachent le faire ? C'est important. Est-ce que nous acceptons d'avoir des remarques visant à nous améliorer dans notre façon de servir? C'est essentiel que nous puissions avoir un cœur qui forme, qui accepte d'être formé. C'est pas facile, hein, vous savez. Rire aujourd'hui. Bon. Mais il y en a certains pour qui c'est plus facile que d'autres, mais c'est pas facile. Hein? Ah, mais vous rigolez, mais qu'on vient de dire, ah oui, mais écoute, dans ta présidence ce matin, ça n'allait pas. C'est pas facile, ça fait mal au cœur. Hein? Mais on doit l'accepter. Hein, ou qu'on dise, tu vois, l'attitude que tu as eue ce jour-là, dans le service, ça va pas. Pas facile d'accepter ça. Hein? Pour vous, oui, mais voilà. C'est... Mais pourtant, ça, c'est des conditions pour le service. C'est des conditions. Nous devons accepter ça. Et c'est une question d'humilité. Reconnaître que nous avons à apprendre et être suffisamment réceptif et enseignable pour recevoir une formation de la part des autres. L'humilité. Je pense que tous les gens qui servent bien, ou en tout cas qui glorifient Dieu dans leur service, sont des gens qui ont accepté d'apprendre. Des autres. C'est comme dans tout. Il y a des gens qui sont là, qui ont une expérience à transmettre aux autres. Et donc nous devons accepter ça. Pour le service, nous devons donc avoir des ministères qualifiés. Donc, nous devons servir en étant, entre guillemets, c'est même pas ce mot dans l'Église, mais compétent. Mais compétent, ça ne veut pas dire qu'on va apprendre ça à l'école, mais ça veut dire que on fait les choses, mais pas n'importe comment, pas pour dire de les faire, quoi. Et donc nous devons apprendre et nous devons transmettre les compétences aux autres. Et nous devons chercher à aider les autres à libérer toutes leurs capacités. C'est vrai pour les jeunes qui ont plein de capacités à mettre au service et on doit les pousser pour qu'ils puissent mettre tout ce qu'ils ont en eux dans l'Église. L'Église doit être un lieu où il y a de la place pour tous les dons, pour toutes les capacités. Mais c'est vrai aussi pour les plus âgés, nous devons tous rendre plus que nous avons reçu. Ça vient d'où ça? La parabole des talents. Tu dois rendre plus que tu n'as reçu. Et donc, tous, on doit développer ce qu'on a pour nous présenter au tribunal du Christ en disant, Seigneur, tu m'as donné des dons, voici ce que j'ai fait avec. Et ne pas arriver devant le tribunal du Christ tout gêné en disant, Seigneur, j'avais beaucoup de dons, mais j'ai rien fait avec et ils sont bien enfouis. Nous devons aussi apprendre à transmettre le message. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Être des gens fidèles pour pouvoir aussi transmettre le message de la parole de Dieu. Je vais terminer ce principe en disant qu'il est très important aussi de comprendre que nous devons avoir une mentalité d'héritage. Nous devons transmettre aux autres, à nos frères et sœurs qui sont là, à ceux qui voudraient servir, à ceux qui ne savent pas comment faire. Mais nous devons aussi penser à transmettre aux nouvelles générations. Nous devons permettre à d'autres générations de se lever et de prendre la relève, parce que nous ne sommes pas éternels. Nous devons prendre conscience du caractère fini de notre vie, de notre service. Notre vie est limitée. Nous partirons un jour. Notre service aussi est limité. Et donc, parce que nous ne sommes pas éternels, nous devons toujours faire en sorte que l'Église puisse continuer à jouer entièrement son rôle. Quel que soit ce qui se passe, l'Église doit continuer à jouer son rôle. Et donc, il faut avoir dans la tête toujours de transmettre. Par exemple, prenons l'exemple d'Élisée. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Hein? Donc à un moment donné, Dieu dit à Élie, maintenant, ben voilà, ton temps à toi est fini, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la relève. Et donc il faut garder ça à l'esprit, que Dieu veut que nous transmettions. Josué aussi a succédé à Moïse. L'Église doit vivre pleinement son appel. Même après la mort des fondateurs, même après la mort de ceux qui étaient là au tout début, ah, il y a notre frère Jacques qui est là, même après, l'Église doit continuer à vivre. L'Église doit continuer à vivre même quand on nomme des nouveaux anciens. L'Église doit continuer à vivre après le décès d'un pasteur ou après le départ d'un pasteur vers ailleurs. L'Église doit continuer à vivre même quand elle change de lieu. L'Église doit continuer à vivre, même quand il y a des membres qui viennent et des membres qui partent. Ça arrive. Des gens qui quittent l'Église, ben, ça fait partie de la vie d'Église. Ou des gens qui arrivent. L'Église doit continuer toujours à jouer son rôle. Je termine aujourd'hui avec un principe, le principe de l'autorité. C'est un principe que vous n'aimez pas. D'ailleurs, je voulais le supprimer. Mais voilà, il est resté. C'est Olivier qui, je pense, il l'a laissé dans le PowerPoint. Je lui avais dit de l'enlever, mais il l'a laissé. Mais vous pouvez encore partir, hein, si vous voulez, avant que je parle de ce principe-là. Allez, je me retourne et vous avez le temps pour partir. Bon, le principe de l'autorité. Notre service dans l'Église doit être un service supervisé. Alors rapidement, rappelez que Dieu, l'autorité appartient toujours à Dieu, jamais aux humains. Mais que Dieu la délègue à des gens dans différents contextes, dans la famille, dans l'Église, dans la société. Dieu délègue son autorité à des gens qu'il établit pour être des autorités. Ce n'est pas juste dans l'Église, c'est dans la famille, dans la société. Il y a des autorités partout. Les autorités établies par Dieu doivent agir avec humilité, avec responsabilité, avec sagesse. Mais elles doivent aussi être respectées. Ça, tout va ensemble. L'autorité ne doit pas être dominatrice, elle ne doit pas être méchante, elle ne doit pas être destructive. Elle doit être bienveillante, elle doit être sage, elle doit être humble, mais en même temps, elle doit être respectée. L'autorité appelle l'exemple et non la domination. Paul parle aux anciens en disant non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On est une autorité, pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on se met au service. L'autorité est dans le service. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a parlé du service. L'autorité est dans le service et l'autorité est dans l'exemple. En d'autres termes, il ne s'agit pas de demander à être respecté en faisant n'importe quoi. Il s'agit de se mettre au service. Avec notre autorité, nous servons les autres. Nous ne les écrasons pas, nous ne leur faisons pas du mal, mais avec notre autorité, nous servons les autres, mais nous devons en avoir. Notre autorité est liée à la responsabilité que Dieu nous donne. Il est dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Pourquoi est-ce qu'ils ont autorité? Parce qu'ils devront rendre compte. Donc c'est à cause de la responsabilité. Donc l'autorité va toujours avec la responsabilité. Et l'autorité est liée à la fonction et non pas à la personne. En d'autres termes, nous ne respectons pas une personne, nous respectons sa fonction, nous respectons son rôle. Donc ce n'est pas le culte de la personnalité dans lequel on dit « ce monsieur est tellement exceptionnel et tellement extraordinaire que je le respecte », ce n'est pas ça, c'est « je le respecte à cause de la fonction que Dieu lui donne ». Mais c'est vrai dans l'Église, c'est vrai en dehors de l'Église. Vous savez que le respect envers les autorités, bibliquement parlant, ça s'applique à nos autorités. Hein? Et l'autorité donc implique la responsabilité. Ok ? Je vais bientôt finir. Hein. Ne soyez pas déjà tous stressés. L'autorité est exercée par l'enseignement de la parole de Dieu. L'autorité s'exprime notamment dans la discipline ecclésiale. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais ce n'est pas le sujet, mais qui ne savent pas que ça existe, la discipline ecclésiale. L'autorité est exercée dans la gestion de la vie communautaire, l'autorité est exercée dans la prise de décision. Nous devons accepter qu'il y ait de l'autorité. L'autorité est exercée dans la prise de décision. Regardez Actes 16, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc on sait que déjà à l'époque, il y avait des décisions, ça c'est une chose, et que deuxièmement, les gens étaient appelés à respecter les décisions qui étaient prises par ceux qui avaient une autorité. Et donc le service dans l'Église répond aussi à ce principe d'autorité. Nous servons sous l'autorité. Nous acceptons qu'il y ait des autorités, de l'autorité. Et donc le principe, ça je vais insister quand même avant qu'on arrive vers la fin, je vais insister sur ce qu'on appelle le principe de la redevabilité. Un principe qui s'applique à toute personne dans une Église, toute personne, personne n'en est exclu, et c'est un principe qui veut que tout le monde doit être en position de rendre des comptes à quelqu'un. D'accord ? Tout le monde doit être en position de rendre des comptes à quelqu'un. Personne ne peut être dans une position dans laquelle il peut dire « je n'ai de compte à rendre à personne ». Vous voyez l'idée ? Donc nous devons tous être redevables envers quelqu'un. Quelqu'un doit pouvoir nous demander des comptes. Une église ou un lieu où des personnes n'ont pas à rendre de compte, ça s'appelle une secte. Ou alors une église dans laquelle tout le monde doit rendre des comptes, mais il n'y a qu'une seule personne qui doit rendre de compte à personne. Moi, je suis le pasteur, je n'ai de compte à rendre à personne. Dans une église en bonne santé, tout le monde, dans sa position, sait que je dois rendre des comptes. On peut me demander des comptes. Pas tout le monde, pas dans toutes les circonstances, mais voilà. Donc nous ne sommes pas appelés à être indépendants, nous ne sommes pas appelés à être électrons libres, mais nous sommes appelés à être redevables envers quelqu'un. Être redevables envers quelqu'un. Et donc accepter qu'on puisse nous dire, hein, oui mais, et donc moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et accepter cette redevabilité. C'est pas facile non plus. Pourquoi l'autorité dans l'Église ? Pour s'assurer que la parole de Dieu est bien appliquée. L'Église est un lieu où règne la parole. Et les responsables doivent veiller à ce que la parole règne. Pour que l'ordre aussi règne dans l'Église. Pour que ce ne soit pas un grand truc sans ordre. Pourquoi l'autorité ? Pour préserver les âmes et pour préserver la bonne doctrine. Pourquoi l'autorité ? Pour rester dans les rails de la mission et des exigences de l'Écriture. Colossiens 2,5, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Concrètement, l'autorité implique qu'il y aura toujours des frustrations. Toujours. Nous ne pouvons pas vivre avec des autorités en présence sans qu'il y ait de frustration. Et nous devons prendre en compte la position des responsables dans cette responsabilité. Je ne sais plus qui disait ça, je me demande si ce n'était pas Arlette qui disait ça il y a quelques jours, que j'avais bien aimé ce que tu disais, je ne sais pas si c'était toi. Mais je sais que Jean-Pierre me l'avait dit aussi au début du Covid, parce que je retiens tout ce que Jean-Pierre me dit, quand il me dit un truc, je retiens. Il m'avait dit concernant, mais je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais comme c'est Jean-Pierre qui l'a dit, c'est vrai. Il m'avait dit au téléphone, hein, t'as peur de ce que je vais dire, hein, que je dévoile ce que tu m'as dit. Mais il m'avait dit, en parlant de la crise Covid, il m'avait dit, en parlant des responsables politiques, j'aimerais pas être à leur place. Et Arlette, c'était toi qui m'avais dit ça aussi le jour. Moi, j'aime bien les gens qui pensent comme ça. Parce que c'est un élément important. Je pense que, et je donne mon avis, dans un enseignement on peut, dans une prédication on peut pas, mais dans un enseignement on peut. Je pense que les Belges sont de gros rouspéteurs. Parce que j'aimerais bien voir les citoyens qui râlent tout le temps à la table du Codeco, devant tous les documents, devant toutes les statistiques, qu'on dit, ben voilà, prendre une décision. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On ferme les écoles, on ferme pas les écoles, on met des masques, on met pas des masques. C'est pas facile, hein? Il y a des gens qui parlent comme si c'était simple. C'est pas facile, hein? Et donc, pourquoi je disais ça d'ailleurs? Pour parler de Jean-Pierre, et voilà. Mais donc, non, mais c'est ça pour dire que nous devons prendre en compte la position des responsables. Il y a de la frustration, nous sommes frustrés des décisions qui sont prises par le gouvernement, elles n'ont pas de sens, elles ne ressemblent à rien, oui, mais en même temps, nous devons prendre en compte la position des autres. Et ça nous permet de comprendre plein de choses. Il y a des gens qui n'ont jamais géré que des petites voitures de police, et qui croient qu'on gère ça comme on gère un pays. Mais non, il faut quand même réfléchir. Donc ça, c'est vrai à l'échelle de tout un pays, mais c'est vrai dans l'échelle d'une église. Quand on a une église de 70 personnes, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, et il y en a qui veulent ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est pas facile. Et donc nous devons en prendre compte, et ça diminue les frustrations. Regardez, par exemple, moi, je ne suis pas frustré des décisions du gouvernement. Vous, vous êtes frustré, moi, non. Je suis libre. Je suis bien, moi. Parce que je prends en compte la position des responsables politiques. Concrètement aussi, n'oublions pas que les initiatives qui sont concertées et approuvées par les responsables touchent toujours la cible. On est toujours gagnant quand on concerte, on est toujours gagnant quand on demande l'avis et quand on travaille en harmonie. Et nous devons avoir à cœur l'ordre et la bonne doctrine dans notre église locale. Je termine en disant que les responsables dans l'église, ce ne sont pas juste les anciens ou les diacres, tout ça, mais les responsables sont aussi toutes les personnes à qui l'église confie une responsabilité. Donc l'autorité ne concerne pas juste les anciens, ça concerne toute personne qui a une responsabilité dans l'église. Et toute personne doit être respectée dans la place qui lui est donnée. Que ce soit être responsable du nettoyage, responsable de la louange, responsable de l'école du dimanche. Quel que soit notre domaine, nous devons accepter l'autorité, comme nous dit le texte, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. J'ai été long, vous êtes frustrés, mais vous comprenez ma position et donc vous n'êtes plus frustrés tout à coup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre assemblée.